la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Je relis Henri Calais, un grand voyage, un livre écrit en 1952, publié par la librairie Gallimard, et ici dans une version par Le Dilettante. En 1994, Le Dilettante a publié plusieurs livres d'Henri Calais, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement, qui a écrit à partir du début des années 30 et jusqu'à sa mort dans les années 50. Il est mort prématurément d'un problème cardiaque et c'est un des grands auteurs français de l'après-Seconde Guerre mondiale, car il a très bien détaillé toute cette période de reconstruction d'après la guerre, et notamment les petits travers de ses contemporains français et des observations à la fois de ses quartiers de Paris qu'il aimait arpenter, et puis d'autres endroits en France où il allait parfois en reportage. Ici, Un grand voyage, c'est une des exceptions dans son écriture, c'est-à-dire un livre qui est purement une fiction, encore que c'est basé sur des faits réels de sa propre biographie. Son personnage, Germain Vaugrenieuse, part en voyage en Uruguay. Il s'en va pour on ne sait vraiment quelle raison, probablement quelques malversations financières. En tout cas, ce garçon n'hésite pas à être dans quelques mauvais coups si jamais ça se présente, mais d'une manière toujours douce et jamais frontale, jamais volontaire. Il se laisse embarquer, on va dire, par quelques malfrats un peu plus puissants que lui, que ce soit vers le jeu, vers des formes de détournement et vers une sorte d'oisiveté aussi qui l'amène comme ça à vivre quelques expériences étonnantes dans ces contrées d'Amérique du Sud. Alors, Un grand voyage, c'est donc celui de Germain Vaugrenieuse, et puisque je suis en train de le relire, et j'en avais gardé un souvenir finalement diffus, mais avec vraiment beaucoup de plaisir à cette lecture que j'avais pu conseiller à pas mal de gens, et bien en le relisant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans ces aventures un peu paresseuses de Germain Vaugrenieuse, et je me propose de continuer ma lecture là où j'en suis rendu, à la page 175. Le livre en fait quelques 250, et on est donc au chapitre 18. Un soir qu'ils étaient dans le jardin de la brasserie Munich, il fit part à Juan Manuel de ce qu'il avait décidé. Auparavant, il avait causé une sorte d'esclandre dont il demeurait surpris et effrayé. Était-ce la vésanité qui s'annonçait ? Il avait malmené un garçon, lui qui était généralement retenu et qui ne redoutait rien tant que l'éclat. Il devenait d'une nervosité, d'une irascibilité excessive. Il commençait à ressentir des malaises physiques, un agacement constant des muscles, des démangeaisons dans les chairs, le besoin irrépressible, irréalisable, de se gratter sous la peau, furieusement. Le garçon avait un peu tardé à répondre à son appel. « Donnez-moi une autre chaise. » « Une autre chaise, mais elles sont toutes pareilles. Je veux une autre chaise tout de suite, vous m'entendez tout de suite. » Jamais il ne s'était emporté ainsi. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demanda Juan Manuel. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'aurais pu demeurer une seconde de plus sur cette chaise, je crois que je deviens fou. » C'est un petit doping qu'il te faut. Après, il se sentit apaisé, effectivement. Et alors, il exposa sa décision. Coco, j'ai une offre à te faire. Écoute-moi, c'est très sérieux. Je viens d'examiner mes comptes. Dans très peu de temps, je n'aurai plus un sou. Ça a été vite. Tu te laisses dépouiller par tout le monde. On dirait que ça t'amuse. Oui, je n'ai jamais eu le sens de la propriété. D'ailleurs, ils font cela très gentiment. En vérité, cet argent me dégoûte. Sa voix avait changé, prenante encore, mais son débit était devenu irrégulier, tantôt saccadé, tantôt lent. Rentrer en Europe, j'y ai pensé, il n'est pas trop tard, mais je n'en ai plus envie. Qu'est-ce que je ferais là-bas? Il me faudrait chercher un petit emploi de bureau. Je ne sais rien faire. Lupo ne serait plus près de moi pour me pousser. Prendre le métro 4 fois par jour, être bousculé, vivre avec tout le monde, comme tout le monde. Non, d'ailleurs, je ne suis plus guère présentable. Que dirait Camille en me revoyant dans l'état où je suis à présent? Tiqueur, renifleur, maniaque. Je ne pourrais plus reprendre une existence normale, décente, maintenant que j'ai goûté à celle-ci. Je suis comme un navire abandonné sur son erre. Je vais à la catastrophe. À mesure qu'il parlait, sa résolution se précisait. Je veux rester ici, avec toi, mon unique ami. J'ai vu une petite maison rose à Carrasco, tout près de la mer, isolée dans un bois d'eucalyptus. allons-y vivre. Tu quitterais ton poste aux municipaux, nous ferions une grosse provision de drogue et d'alcool, on ne verrait plus personne, on ne s'habillerait plus, la mer est toute proche, quelques disques, des livres. » Juan Manuel ne disait rien. « Tu acceptes ? J'ai encore de quoi nous assurer une année, mais une année merveilleuse, funambulesque, parfaite. Vivre dans un perpétuel délire jusqu'à une dernière syncope plus longue que les autres. Une telle année vaut toutes les existences. Tu acceptes, n'est-ce pas ? » Après un court silence, qui fut pour Germain comme un arrêt du cœur, Juan Manuel répondit « C'est un beau troisième acte, mais je n'ai nulle envie d'y jouer un rôle. » Il se défilait. Germain comprit qu'il était seul vraiment et qu'il le resterait, avec cette sensation de froid et de mort dans la moelle des os, de plus en plus insupportable. Il insista encore un peu. « Alors, tu ne veux pas mourir avec ton vieux coco ?» Sur un ton implorant dont il n'avait encore usé avec personne. Mais lui-même était-il prêt à mener jusqu'au bout sans faiblir cette partie perdue d'avance ? Ou bien cherchait-il de nouveau à se tailler un rôle avantageux ? Ne souhaitait-il pas qu'on le tirât hors du trou où il s'enfonçait tous les jours davantage ? N'attendait-il pas une main secourable ? Et si Juan Manuel avait accepté sa proposition, n'aurait-il pas été pris de panique ? Il était bien jeune pour mourir volontairement. Il se serait certainement débattu au dernier moment. Ne se sentait-il pas allégé de pouvoir faire porter par Juan Manuel la responsabilité de ce qui allait s'en suivre ? D'ailleurs, depuis quelque temps, les liens entre lui et Juan Manuel se relâchaient. Il ne se voyait plus aussi régulièrement qu'avant. Juan Manuel avait des périodes de bouderie inexplicables. Ils ne jouaient plus ensemble. Avait-il quelque aventure ? Germain en souffrait. Il ne comprenait rien à ce jeu, si c'était un jeu. L'indifférence, vraie ou affectée de Juan Manuel à son égard, l'irritait parfois un peu. Lorsqu'il eut déposé Juan Manuel chez lui, la fantaisie lui vint d'aller droit devant lui vers la campagne. Ce n'était pas encore le jour. Il appuyait sur l'accélérateur, le moteur répondait. Il allait de plus vite que ses pensées. Il aimait bien cette voiture nerveuse, ombrageuse même. Il se reprochait de la négliger, de l'abandonner souvent n'importe où, quand il n'avait plus la force ni la lucidité nécessaires pour conduire. Il éperonna les 24 chevaux de fer frémissant. Vivre ainsi, sans rien dire, sans rien faire, à toute allure, brûler les étapes, vivre sur le pouce. Il y eut un choc, un vacarme de bois, de verre écrasé. Germain eut le temps d'entreapercevoir deux chevaux dressés sur leurs pattes arrière, les chevaux de l'Apocalypse. Pas encore. Il n'avait que des blessures superficielles au visage. Les bêtes, affolées, couraient au loin. Il était entré en collision de plein fouet avec une carriole de maraîchers qui venait en sens inverse. Le cocher était dans le fossé, inanimé, pas tout à fait réveillé. Voilà un petit extrait de « Un grand voyage », un livre d'Henri Calais, écrit en 1952, republié aux éditions Le Dilettante en 1994. Un peu difficile à trouver ces temps-ci, encore que il semblerait qu'il le réédite bientôt, ou en tout cas régulièrement. On écoute Barbara, Les Voyages.
Oh, les voyages au rivage lointain, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images, car les voyages, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvrent au bonheur. Mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient sains.